Thématique, on va s'immerger dans des vies océaniques quand des animaux et des humains se rencontrent. Mais pour l'heure, sur France Culture, il est 19h. Le journal est signé Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Israël continue de frapper l'Iran à pleine force. Déclaration du chef de l'armée israélienne il y a quelques minutes. L'opération Rising Lion est toujours en cours et des médias iraniens rapportent des explosions dans la capitale iranienne, Téhéran. Depuis près de 24 heures, les forces israéliennes bombardent notamment des dizaines de cibles militaires et nucléaires et ont tué plusieurs hauts responsables militaires. Une déclaration de guerre selon l'Iran. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à New York. Ce sera également le cas de l'AIEA lundi, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui appelle les deux parties à la retenue pour éviter une nouvelle escalade, soulignant que les sites nucléaires ne devaient jamais être ciblés. Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Cette évolution est très préoccupante. J'ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car cela pourrait nuire aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de graves répercussions sur la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Malgré les actions militaires actuelles, il est clair que la seule voie durable pour l'Iran, pour Israël, pour l'ensemble de la région et pour la communauté internationale est celle d'un dialogue, d'une diplomatie fondée sur la paix, la stabilité et la coopération.
L'AIEA fait état de niveau de radiation inchangé sur le site nucléaire de Natanz, l'une des cibles d'Israël. Toutes les mesures seront prises pour protéger les Français, indique de son côté Emmanuel Macron. La France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité, dit-il. Le chef de l'État doit d'ailleurs prendre la parole d'ici ce soir. Le sommet de l'ONU sur les océans s'achève à Nice avec un cap clair sur la protection de la haute mer, des engagements sur une douzaine de pages, le principal sujet étant la future ratification du traité sur la haute mer, acté par une cinquantaine de pays et par une douzaine d'autres pour 2026. Le plan blanc a été déclenché cet après-midi, au moins après un terrible accident de car qui transportait des adultes et des adolescents ukrainiens en voyage d'échange scolaire. 4 morts, 11 blessés graves, 34 blessés légers. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A81 entre Rennes et Le Mans à hauteur de la ville de Degré. 19h presque 3 sur France Culture, on retrouve Quentin Lafay pour Question du soir.
Merci beaucoup Nicolas Ballu, tout de suite plongé dans des vies océaniques.
France Culture, Question du soir, Quentin Lafay.
2025 est une année placée sous le signe de la mer, en témoigne la grande conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est ouverte à Nice le 9 juin dernier et s'est achevée aujourd'hui même. Mais ces discours officiels et ces considérations politiques cachent tout un continent vivant, encore méconnu, un territoire dans lequel vivent des mammifères emblématiques, des monstres marins comme la baleine ou le dauphin. Mais ces animaux charismatiques peuvent-ils être par essence des sujets d'anthropologie sans tomber dans le piège de l'anthropomorphisme? Comment écrire le récit de leur rencontre avec les êtres humains? Pour en discuter, un invité ce soir, Fabien Clouette. Bonsoir.
Bonsoir, Quentin Lafay.
Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des terrains maritimes, auteur de 3 romans aux éditions de L'Ogre. Vous venez de faire paraître Des vies océaniques quand des animaux et humains se rencontrent, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.
Notre pêche, elle est très très loin d'être la pêche la plus agressive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'est moins industrialisée que les autres, elle a beaucoup moins de bateaux comme tel. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a concerté nos pêcheurs. Et là où dans nos zones métropolitaines, on était à 0,1% de protection, on est passé à 4%. Vous avez des gens qui vivent de cette pêche. Vous mangez de la coquille Saint-Jacques, vous mangez de la sole. Non mais c'est ça la réalité. Hein. Parce que moi j'écoute mes pêcheurs aussi. La France, elle est bonne élève. Elle est bonne élève parce qu'elle a beaucoup moins de chaluts de fond que les copains. Nous, on a un seul bateau de pêche industriel, l'Émeraude. Le reste, c'est une pêche. Aux trois quarts, c'est moins de 12 mètres. Le reste, c'est entre 12 et 25 mètres. Ce n'est pas des bateaux comme ça. Ensuite, on a beaucoup moins de chaluts de fond que les autres. Ensuite, On est aux avant-gardes de la protection. En aire marine protégée, en protection forte, en protection stricte.
Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'exprimait sur France 2 le 10 juin dernier. Fabien Clouette, quel regard porte le politique, la politique publique même d'une façon générale, sur cette profession, sur les pêcheurs ?
C'est vrai que, alors moi j'étais pas à Nice, j'ai regardé l'émission à distance. J'ai vu qu'Emmanuel Macron, le président de la République, parlait de ces pêcheurs un petit peu avec la reprise des éléments de langage de l'artisanat, de l'industriel, en omettant peut-être la grande hétérogénéité en fait de ce métier, la grande diversité de ce métier, avec surtout des intérêts différents entre pêcheurs et des intérêts contradictoires. C'est peut-être ce que j'ai retenu de cette émission. Avec...
Pourtant, pardonnez-moi, il explique bien qu'il y a différentes manières de pêcher, qu'en France, on ne pêche pas peut-être comme ailleurs, en tout cas qu'on a un modèle différent qu'au sein de la pêche française. Même dans ce cadre-là, il y a différents pêcheurs, différents modèles de pêche.
C'est vrai, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'on n'a qu'un seul bateau industriel, par exemple, ce qui dénote une drôle d'idée de conceptualiser cette notion d'industrie, puisqu'en fait, c'est tout un spectre en réalité. Et puis, on le voit avec tout le débat sur la déchalutisation. Il y a plein de chalutages différents, plein de tailles et de types de métiers différents. Même au chalut, il y a plein de manières de faire. En tout cas, il y a plein de tailles différentes. Par exemple, la flottier chalutière à la langoustine au départ du Kelvinec, c'est pas la même que des chaluts de plus grosse importance. Donc il y a, des gradients à faire. Sachant que moi, cette toile de fond, ce paysage-là, je l'ai fréquenté surtout sur mon terrain de thèse, avec chez les pêcheurs de manière générale, et cette fois-ci un petit peu dans leur ensemble, malgré leur grande diversité et leurs intérêts contradictoires, une forme d'eschatologie, un peu l'impression, cette idée d'ailleurs véhiculée par les instances, du marin pêcheur espèce en danger, avec tout un tas de phénomènes qui sont mis en corrélation les uns avec les autres, associés parfois de nature complètement diverse. On a pu penser par exemple à la prolifération de poulpes, qui était d'abord perçue comme une invasion en 2021 sur les côtes bretonnes, puis ensuite qui est devenue une aubaine, la disparition du tourteau, et donc toute une pêcherie qui s'en va, la question du chalutage dans les aires marines protégées, qui est très présente et qui, pour certains, est comme une épée de Damoclès, alors qu'on aurait pu prévoir quand même bien en amont que le chalutage ne pouvait pas durer éternellement comme il était prévu, puisqu'il est très pétrodépendant et qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on sait ça. Et puis, une autre toile de fond qui est celle également de mon ouvrage, qui est celle des captures accidentelles de dauphins, qui est un problème qui est connu depuis les années, je dirais depuis les années 80. On voit qu'il y a des pics hivernaux d'échouages. Le réseau national échouage qui s'occupe de ça le documente. Et à partir de 2016, vraiment, là, il y a une intensification. Et mes collègues scientifiques ont mis ça en avant. Ensuite, ça a été porté par des ONG surtout, ce qui a amené ensuite aux fermetures spatio-temporelles qu'on a eues l'an dernier, cette année, et puis qu'on aura l'an prochain.
Il y a une autre toile de fond que vous dépliez, Fabien Clouette, dans vos travaux, et notamment dans les travaux que vous avez menés dans le Finistère Sud. C'est la façon dont les pêcheurs perçoivent la détérioration, les transformations du paysage, des paysages qui encerclent leur propre engagement, leurs propres travaux, leur propre quotidien. Comment justement la transformation de ces paysages, induits par le changement climatique, affecte directement la profession et les pêcheurs en particulier ?
Oui, c'est un petit peu en résonance avec ce que je disais, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui, comme il affecte, comme cette impression affecte directement le quotidien des pêcheurs, un peu dans leur diversité, dans la diversité des flottilles, même à l'échelle locale, il y a l'impression que malgré la faible démographie de cette population professionnelle, on pense 15 000 personnes environ, donc c'est pas énorme, eh bien, il y a l'idée qu'il faudrait peut-être penser comme un seul homme à la survie de cette profession, alors que c'est pas le cas. Les pêcheurs sont pas en accord, ils n'ont pas les mêmes sensibilités les uns des autres, ils n'ont pas les mêmes manières de faire, les mêmes méthodes. Et surtout, il y a des techniques et des méthodes qui rentrent dans le cadre de ce que des collègues ont pu appeler la pêche écologie, et d'autres qui sont amenées à disparaître parce qu'en fait, elles ne sont ni rentables, ni écologiques, et qu'elles ne rentrent plus dans nos modes de nos manières de faire.
Il y a peut-être un paradoxe apparent au sujet des océans, au sujet des mers. D'un côté, ils sont mis en lumière d'une façon dramatique, aujourd'hui, notamment liée à la question du changement climatique. Et dans le même temps, on réalise qu'on méconnaît ces espaces, qu'on méconnaît la vie de celles et ceux qui les peuplent par ailleurs. Est-ce que les animaux marins, là, c'est l'objet de votre dernier ouvrage, hein, des vies océaniques, est-ce que ces animaux marins peuvent être pour nous un vecteur de connaissance vis-à-vis de l'océan? Est-ce qu'il faut, si je puis dire, les utiliser, entre guillemets, pour tenter de mieux comprendre ces espaces gigantesques?
Alors, votre question, elle résonne tout de suite avec des projets de recherche qui utilisent directement les animaux marins et même les mammifères marins. Je pense aux éléphants de mer qui sont utilisés, parce que ce sont de grands plongeurs, qui sont utilisés pour aller capter des informations vers des espaces où on n'a pas accès. Et en fait, c'est aussi ce qui participe de la fascination qu'on a pour ces animaux, puisqu'en réalité, très souvent, par exemple, sur le terrain, on me parle de l'œil de la baleine, mm-hmm. l'œil d'un mammifère marin. Cet œil, il voit des réalités auxquelles nous, on n'aura jamais accès. Et d'ailleurs, un œil, a priori, ça sert à rien dans les grandes profondeurs, puisqu'on n'y voit rien. Et ça, c'est fascinant de se dire que on peut partager un élément, celui de l'air de la surface, avec des animaux qui voient des réalités dont on est privé, et dont nos connaissances également, où nos connaissances achoppent.
Sur ces animaux marins toujours, voilà ce que vous écrivez. Alors que tous les animaux terrestres nous fuient d'avoir été chassés, piégés, détruits, ces raies se comportent envers l'humain comme s'ils n'étaient pas le fléau qu'ils sait être parfois. Fin de citation. Il y a justement ce rapport différent selon que l'on est un animal terrestre ou un animal marin vis-à-vis des êtres humains, parce que on est peut-être moins chassé, moins piégé lorsqu'on est un animal marin.
Et en même temps, le charisme de la baleine, il est mélancolique et il est directement lié à cet héritage de la chasse baleinière. Je parlais tout à l'heure d'une toile de fond.
La baleine est mélancolique pour cela ?
En tout cas, son charisme est mélancolique. Son charisme renvoie à cet héritage difficile de la chasse à la baleine, et qui a mené à extinction des espèces. C'est sur la côte basque qu'a commencé la chasse baleinière en Occident. On a mené à extinction la baleine franche de Biscaye. Voilà, donc le charisme de la baleine est mélancolique d'une certaine manière. Ça, c'est notre héritage. Quand la toile de fond en parallèle, qui est également très médiatique, c'est celle de ces échouages répétés. Donc moi, après avoir travaillé auprès des marins pêcheurs, j'ai décidé de cheminer auprès des scientifiques qui les fréquentent le plus, et des correspondants du réseau national échouage également, qui eux ont les mains dans les carcasses qui s'échouent et qui incarnent une forme de soin des vivants, mais à travers le soin des morts en réalité.
Mais on est frappé quand même d'entendre que les animaux marins seraient moins piégés, moins tués que les animaux terrestres. Quand on regarde justement les chiffres de la surpêche, est-ce que c'est si vrai, ou est-ce que c'est simplement en comparaison de l'immensité des océans et de ce que permet la liberté océanique?
Alors je pense aux mammifères marins, là, les contacts avec les mammifères marins aujourd'hui, mais je suis pas éthologue, je suis anthropologue, donc je m'intéresse à notre rapport et nos représentations de ces animaux. Elle est peut-être facilitée par le fait que on les chasse plus, mais on les a chassés, et il faut aussi se rendre compte que certaines disparitions, certaines apparitions rares sont liées au fait qu'on les a chassés et qu'il faut se réhabituer à leur retour, à leur présence de nouveau sur nos côtes pour certains animaux. Je pense aux phoques gris notamment.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'une philosophe, professeure à l'université de Liège, Vinciane Després. Elle s'exprimait en 2021 sur France Inter dans Feu, l'émission Boomerang.
Ce qui est intéressant avec les animaux, c'est la différence, comme ce qui est intéressant avec les humains. Ce qui nous intéresse, c'est les humains. Souvent, on a tendance à considérer que les alliances se font avec le proche. Mais est-ce que les alliances... Oui, bien sûr, il y a des alliances avec les proches qui sont intéressantes. Elles sont parfois un peu plus fiables parce qu'on peut au moins prévoir leur réaction. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est des alliances avec le très différent, parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, à la fois enrichit la vie et à la fois peuple le monde d'une très grande diversité qui nous offre des occasions, nous, de bouger. Parce que c'est ça aussi, être vivant, c'est tout le temps en train de changer. Comment changer avec uniquement des semblables à vous? Ça, c'est difficile. Par contre, changer avec des êtres qui ne cessent de vous surprendre, de vous interpeller, de vous dire, mais ça aurait pu être autrement. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi le monde dans lequel tu vis? Il aurait pu être autrement. C'est quoi un monde de libellules? C'est quoi un monde, je sais pas, de bonobos, d'éléphants ou quoi que ce soit?
Vous êtes d'accord, Fabien Clouette, avec Vinciane Després. Est-ce que lorsque vous partez à la rencontre d'un mammifère marin, lorsque vous rencontrez même par hasard, parce que je sais que vous plongez, lorsque vous rencontrez par hasard un animal marin, est-ce que vous êtes confronté à l'altérité pure? Est-ce que c'est cela qui vous attire dans le fond, ou c'est tout autre chose?
Alors, moi, je ne suis pas cétologue, je suis anthropologue, donc souvent ce qui m'intéresse, c'est de plonger à côté d'humains qui plongent à côté d'animaux marins ou à côté de mammifères marins. Et je suis toujours plus intéressé par nos tensions et notre diversité d'approche de ces animaux. Et notamment, peut-être une tension qui est celle d'un esprit scientifique, conservationniste, emprunt en tout cas de la cause environnementale, qui réfléchit à l'échelle de l'espèce, et celui de la cause animale, qui pense davantage avec des impératifs moraux à l'échelle individuelle. Et c'est vrai que, dans le livre, c'est la biographie d'individus, animaux, mais ce sont des biographies relationnelles, ce sont des biographies qui ont pour limite le fait que je ne peux rester que sur le seuil de ce que les humains que j'ai rencontrés sur mon terrain m'ont permis de voir de ces animaux et de raconter de cette biographie.
Il faut spécifier de quoi il s'agit lorsque vous dites des biographies relationnelles. Ça veut dire que ce sont des biographies qui s'intéressent toujours à deux êtres vivants, ou bien c'est toujours la biographie de rencontres qui entourent un seul et même être?
Le livre est construit autour de quatre parties. Mmh. Il y a la biographie d'un phoque gris, la biographie d'un grand dauphin, la biographie d'un rorqual commun, juvénile, et, disons, la biographie d'un clan d'orques. Mais c'est toujours parce que les modalités d'existence même de ces animaux, qui sont pourtant nommés, suivis, parfois starisés, nous échappent, c'est systématiquement le récit, en tout cas, de rencontres entre des humains et des animaux, et ces animaux-là, individus, et des rencontres aussi entre humains. Et d'ailleurs, les conflits entre les animaux et les humains sont quasiment systématiquement des conflits entre humains.
Alors on va plonger justement dans ces biographies relationnelles, elles sont passionnantes, hein, vous les racontez dans des vies océaniques, quand des animaux et des humains se rencontrent. Il faut d'abord poser le décor, il faut situer où se passent ces rencontres. Alors ce n'est pas un lieu géographique à proprement parler, mais elles se passent dans ce qu'on appelle l'estran. Il faut nous raconter, nous décrire ce qu'est l'estran.
Oui, alors en tout cas c'est un espace du maritime qui, moi, m'a permis de penser ces rencontres ou ce caractère liminaire, ce seuil un petit peu de rencontre, puisque l'estran, c'est l'espace où la marée se retire, donc c'est plus vraiment la terre, mais pas forcément encore la mer. C'est là où, en fait, on retrouve ces individus échoués, en réalité. C'est là où aussi on retrouve certains animaux échoués qui sont vivants, ou alors où certains animaux viennent se reposer, puisque un phoque, ça a deux besoins, se nourrir, se reposer. Et donc, ça vient assez naturellement sur l'estran, se reposer. Et donc, l'estran, c'est cet espace comme ça, liminaire, qui me permettait de penser la possibilité d'une rencontre aussi, et la possibilité de l'arpentage par l'humain d'un milieu qui lui est hostile, et de l'arpentage par un mammifère marin d'un autre espace qui lui est hostile également. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que le premier vertige face à ces animaux, c'est le fait que dans leur histoire évolutive, ce sont des mammifères, mais qui sont retournés à l'élément océanique, à l'élément marin, avec des capacités d'apnée parfois pas énormes. Donc c'est un premier vertige de voir des animaux qui nous ressemblent, pour répondre un petit peu à votre question de tout à l'heure. Certes, ils sont l'altérité même, puisqu'ils plongent parfois à 600 mètres de fond pour le dauphin de Rissau, pour aller chercher des calamars. Encore plus pour le cachalot, un des territoires qui ne seront jamais accessibles. Et en même temps, ce sont des mammifères.
Et certains chercheurs disent même, je l'ai appris en vous lisant, certains chercheurs disent même que c'est la version évoluée de nous-mêmes, ces animaux marins. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette théorie ?
Mais alors, ces animaux, ils sont très présents dans nos imaginaires aussi, dans les objets culturels, livres, films, même dans une chambre d'enfant, il y a plein de baleines de toutes formes différentes, des peluches, des représentations. Donc en fait, ils sont présents dans notre univers pour l'ensemble de notre société, mais il est très rare de rencontrer une baleine dans une vie. Et les personnes qui auront cette chance, pour le dire vite, parfois aussitôt apparu, aussitôt disparu, c'est un aileron par-ci, voilà. Et un souffle qu'on a à peine perçu. Et donc, j'ai oublié le début de votre question.
Est-ce que c'est une version évoluée de nous-mêmes, ces animaux marins ?
Voilà, et donc toutes ces références culturelles, cet imaginaire, il a mené aussi à un intérêt un peu New Age pour ces animaux, le dauphin notamment, avec des envies de communiquer avec ces mammifères qui vivent dans un autre élément et qui pourraient porter une forme de message, une forme de... comme ça, qui seraient des ambassadeurs. C'est d'ailleurs le terme, un des termes, pour désigner les dauphins solitaires qui viennent au contact des humains, comme c'est le cas de Zafar, cet animal de la deuxième partie du livre, qui est un
dauphin. Voilà. Alors, on va commencer par le phoque, si vous le voulez bien. Racontez-nous qui est You, ce phoque sur lequel vous mettez la lumière, Fabien Clouette. Il faut nous rappeler, j'allais dire, quelle était sa vie et pourquoi, en un sens, il a intéressé tant de monde sur les plages de Gironde.
You est un phoque gris qui, dans son errance juvénile, puisque les phoques gris sont sevrés assez rapidement et doivent ensuite, de manière erratique, faire leur éducation, s'est retrouvé beaucoup plus au sud que les animaux, les phoques gris qu'on a l'habitude de voir. Il s'est retrouvé sur des plages, en effet, de Gironde. Et a trouvé des reposoirs qui lui convenaient, qui étaient à son goût, qui étaient les planches de surf des locaux. Et c'est vite devenu une forme de mascotte. Sauf que la mascotte a grossi, a grandi, et est devenue un peu agressive également, et est devenue un problème pour les autorités locales, à l'époque, qui ne savaient pas du tout quoi faire de cet animal. Finalement, c'est devenu une sorte de cauchemar du gestionnaire, notamment pour la saison touristique. Et après différentes péripéties administratives, où il a été question de scénarios qui nous semblent aujourd'hui totalement fous, comme l'abattage, alors que c'était il y a que 10 ans. Bon, en fait, comme c'est un animal protégé, il en était déjà pas question, mais c'était sur la table. Et donc, il a quand même été. Il y a une forme de violence, en tout cas.
De brutalisation.
Voilà. Il a été capturé et mis à l'isolement dans un bassin d'Océanopolis, qui est un centre de soins qui a l'habitude de récupérer plutôt des phoques juvéniles pour les soigner et les relâcher à l'eau. Et après cette détention provisoire, il a été de nouveau relâché en mer d'Iroise, auprès de congénères, et là il a poursuivi sa vie de phoque, déshumanisé d'une certaine manière. En tout cas, on a travaillé à supprimer son imprégnation.
Et c'est un concept très important, ça. Il faut nous expliquer justement dans votre travail ce que ça représente, l'imprégnation, ce moment pratiquement, je le dis avec mes mots là aussi, où l'animal s'acculture à l'existence de l'être humain. Je vois hésiter avec mon terme, mais je vous laisse me corriger.
Oui, mais encore, je suis pas éthologue ou spécialiste de ces animaux,
alors,
mais en tout cas, du côté humain, il y a de nouveau, peut-être pas une forme de vertige, mais voilà, quelque chose qui est surprenant dans ces destins d'animaux qui viennent au contact. Et donc, l'imprégnation, c'est l'animal qui va, outre le répertoire classique de son espèce, des comportements de son espèce, de ce qu'on connaît, de ce qu'on considère comme étant normal pour un individu phoque qui doit vivre parmi ses congénères, Et qui vient du coup au contact des humains et qui grandit auprès des humains et qui s'y habitue.
Dans ce contexte-là et dans l'histoire que vous venez de relater, qu'est-ce qu'un animal déviant ? Comment là aussi on approche ce concept sociologique de la déviance pour l'appliquer à la situation que vous venez de raconter ?
Voilà, alors moi c'est un terme que j'ai rencontré dans les discours, alors qui m'a tout de suite intéressé, parce que quand on parle de déviance, un sociologue, il a tendance à penser au concept de déviance en sociologie, c'est-à-dire d'écart par rapport à la norme. Et donc, quelle norme ici ? Ben, la norme de l'espèce. En tout cas, de ce que je disais, du répertoire des actions et des comportements possibles pour un phoque gris, en l'occurrence, mais ça peut être pour un grand dauphin, ça peut être pour un autre animal. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Après, ce que j'aurais tendance à rappeler, c'est que ce terme, il est utilisé, mais dans la bouche des scientifiques et des spécialistes, il est très souvent rapidement modifié. On y dit oui, enfin déviant, mais pas vraiment. C'est juste, ça pourrait être aussi un pionnier, par exemple. Et c'est le cas de You. Ça pourrait être le pionnier de recolonisation, puisqu'en fait, on s'est rendu compte simplement que on s'est rendu compte de la plasticité de cette espèce. Moi, je dis, on s'est aussi rendu compte de la plasticité de notre conception de ce qu'est cette espèce et de sa capacité à venir coloniser des espaces où la mer est un peu plus chaude.
En quelques mots, qui est Zafar, un dauphin cette fois-ci ? Pourquoi là aussi est-il célèbre, celui-ci ? Et pourquoi vous a-t-il intéressé ?
Alors c'est un grand dauphin qui fait partie de cette tradition qu'on a en Bretagne, d'avoir des dauphins solitaires qui viennent là encore un peu gêner certaines activités portuaires ou sans gêner devenir des mascottes. Donc là, en cela, c'est une biographie qui ressemble à celle de You. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que son destin, il a changé à partir du moment où il a vécu le confinement à Douarnenez. Et donc, il ne pouvait plus perturber les activités nautiques ou interagir avec les humains. Il a suivi un voilier de fret jusqu'au port d'Amsterdam. Là, il y a eu tout un tas de péripéties, en fait, qui sont très intéressantes sur la question de quelle est la place de cet animal. Est-ce que sa place est dans un grand port comme celui-là ? Il a été mis en dehors de l'écluse. Et puis, quelques jours plus tard, on l'a retrouvé échoué mort. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce destin animal-là, c'est le fait qu'au-delà de sa mort, post-mortem, la tension entre singularité d'un individu et la représentation de son espèce s'est incarnée, puisqu'un muséum a réclamé le corps, le squelette, pour l'exposer, et que ça a immédiatement fait controverse avec les Bretons qui avaient l'habitude de nager avec ces animaux, et qu'en réalité, aujourd'hui, il représente l'espèce Tursiops truncatus, grand dauphin, dans ce muséum, mais il a aussi un cartel qui rappelle son histoire d'individu, d'animal singulier.
L'éthologue Fabienne Delfour, qui s'exprime au sujet de Zafar le dauphin, c'était dans une histoire particulière.
À un moment donné, il y a eu des rencontres entre dauphins et humains. Et donc, à un moment donné, très certainement, il y a eu des interactions qui ont été positives pour l'animal. Et il a construit un réseau d'interactions avec certains humains. C'est non seulement un lien ou une familiarité, il y a aussi l'idée d'être choisi par ces animaux qui sont assez exceptionnels. Puisqu'on a une vision assez romantique et fantasmée de cet animal qui est intelligent, qui est joueur, qui est sensible. Donc on a tout intérêt, si on veut être un peu narcissisé, d'être choisi par de tels animaux. C'est un animal qui est emblématique. Être choisi par un cafard, par exemple, c'est un peu moins sexy.
Pourquoi, Fabien Clouette, faire ces récits, non pas de vie d'animaux, on a bien compris que ce n'était pas l'objet principal de votre travail, mais le récit de ces rencontres, de ces passages et de ces transmissions entre les animaux et les humains ?
Alors, ces récits, peut-être, qui permettent de dépasser une forme de vulnérabilité, une double vulnérabilité qu'on a vis-à-vis de ces animaux, qui est une vulnérabilité d'abord physique, qui renvoie directement au mythe du monstre marin qui a infusé, là encore, nos imaginaires, et puis une vulnérabilité intellectuelle, qui est celle du manque de connaissances et du fait qu'on en apprend tous les jours encore sur ces animaux et qu'ils nous ressemblent, mais qu'ils nous échappent également. Et donc, en faire récit, c'est quand même un recueil de vie. C'est un recueil de vie d'animaux illustres, d'une certaine manière, permet de dépasser cela et d'aller un peu plus loin que le simple fantasme un peu empreint de terreur du monstre marin ou celui du grand message de la nature, d'une nature qui se défendrait.
Merci beaucoup Fabien Clouette. Des vies océaniques quand des animaux et des humains se rencontrent, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce soir.
Merci.
Question du soir.
Vous écoutez France Culture.
Le chanteur et écrivain Gaël Faye partage et commente avec nous les poèmes qui accompagnent sa vie.
Le propre de la poésie, c'est d'exister à voix haute. C'est des prières, en fait.
L'instant poésie de Gaël Faye à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Rendez-vous aux Journées européennes de l'archéologie. Passionnés, simples, curieux, en famille, entre amis, les archéologues vous font découvrir les coulisses de leur métier partout en France, dans les centres de recherche, les villages de l'archéologie et sur les chantiers de fouilles. Une occasion unique pour mieux comprendre notre histoire et le travail de celles et ceux qui la révèlent. Les Journées européennes de l'archéologie, du 13 au 15 juin, partout en France. Un événement France Culture.
Et merci à Stéphanie Villeneuve, Fanny Richer, Pascaline Bonnet, Bertie Bourdon, Juliette Molik, Roxane Poulain, Rodi Eken à la réalisation. Comme chaque jour, c'est François Richer. Ce soir aux manettes, c'était Olivier Arnay. Et vous avez rendez-vous tout de suite dans À Voix Nue, grâce à Caroline Brouet, avec Daniel Poli, alors que s'achève la conférence des Nations Unies sur l'océan. On vient d'en parler. Il est considéré comme le plus grand biologiste marin au monde. Très bonne écoute.
Bonjour Daniel Poli.
Bonjour.
On va parler des combats actuels pour ce cinquième et dernier épisode. Peut-être des menaces qui pèsent aujourd'hui, on est en 2025, hein, sur l'océan, et des solutions pour le protéger. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Les poissons n'ont pas encore perdu ». Mais une question personnelle quand même, ça fait presque 50 ans que vous alertez sur la dégradation des océans, que vous dites que ça va mal et qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que vous en avez pas marre en constatant que la situation empire ?
En effet, j'en ai marre. Et donc, en tant que prof à l'université, j'ai un travail à faire, j'ai un projet à gérer qui documente les pêcheries, qui donne des outils et des données à des gens, à des collègues, pour suivre ce qui se passe. Et je participe bien sûr à des papiers et tout. Mais c'est un peu difficile de maintenir un enthousiasme continu depuis 50 ans et de taper la tête contre un mur qui bouge pas. Alors, entre-temps, j'ai aussi repris un thème que j'avais développé dans ma thèse de doctorat, qui était présentée en 79. C'était, au retour de l'Indonésie, j'avais réalisé que les poissons qui ressemblent à des thons, des maquereaux et autres, et mouraient beaucoup plus rapidement que les poissons qui ressemblent à des merous et autres poissons calmes. C'est-à-dire, ils ont la chair rouge, les thons, et la chair blanche pour les merous. Et donc, leur survie et leur besoin d'oxygène est relié à la circulation sanguine, bien sûr, qui distribue de l'oxygène. Et donc, ça m'a poussé à voir, en fait, c'est l'oxygène qui pénètre par les branchies dans le corps du poisson, qui détermine un peu son niveau d'activité. Et j'ai suivi ça, c'est ma thèse, et j'ai découvert que, en fait, un poisson, il est limité toujours dans son niveau d'activité par le rapport entre la superficie de ses branchies, qui détermine combien d'oxygène peut pénétrer, et le poids de son corps qui détermine l'oxygène dont il a besoin. Et plus un poisson grossit, moins il a d'oxygène par unité de poids. Et si vous augmentez la température, le besoin d'oxygène augmente et la disponibilité d'oxygène, elle diminue. Donc le poisson est coincé.
Et il s'étouffe.
Et c'est juste. Mais ça n'intéressait personne à l'époque parce que c'était un problème de zone tropicale. Maintenant, le réchauffement climatique et la déoxygénation des océans, c'est devenu un problème brûlant. Et donc, ce thème que j'avais développé, presque ludique, pour une thèse, quoi, tout d'un coup, c'est devenu actuel. Alors, c'est devenu maintenant une sorte d'obsession scientifique. Je travaille des tas de papiers dessus, j'ai publié deux bouquins dessus, je vais en publier un troisième, sur l'effet de l'oxygène, ou plutôt la limitation de l'oxygène pour les poissons. Et ça devient plus important pour moi, au moins au niveau émotionnel, que la pêche. Parce que la pêche, en fait, la situation est bien claire, que ce qu'il faut, c'est plus de la recherche, c'est des interventions politiques. Et là, les interventions politiques, je ne les maîtrise pas. Par contre, le développement de cette théorie que j'appelle Gill Oxygen Limitation Theory, le développement de cette théorie, elle est vraiment nécessaire. Il faut que je la continue un peu parce que certains collègues ne sont pas convaincus. Ils ont toutes sortes d'explications. Par exemple, il y a moins d'aliments. Mais quand il fait chaud, il y a moins d'aliments. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'aliments? Pourquoi est-ce que les poissons qui seraient leur proie seraient plus petits? Ça devient, le problème reste le même. Donc, il y a des collègues à convaincre et quand le travail sera fait, je pense que ça va durer 2-3 ans de plus, eh bien, on aura une théorie forte pour expliquer ce qui se passe quand on a des changements climatiques. Et ça m'intéresse maintenant beaucoup plus que la documentation de la surpêche, parce que c'est un fait établi. Que c'est ce qu'il faut, c'est des interventions politiques. Et de plus, j'ai découvert que un logiciel que j'ai développé il y a 40 ans, plus de 40 ans, qui s'appelle Elephant, il est tout à fait adéquat pour estimer la croissance d'animaux fossiles. Alors, j'ai découvert avec des paléontologues que on pouvait estimer la croissance de trilobites qui vivaient il y a 400 millions d'années et d'autres bestioles qui n'ont même pas de nom, qui vivaient il y a presque 550 millions d'années. Et donc, ça m'intéresse vraiment parce qu'il n'y a pas d'armateurs qui vont me dire « Oh, Pauli, il exagère !» Voilà, on peut faire de la science sans avoir d'intérêt politique, d'intérêt économique, qui vont vous dire que vous êtes biaisé. Et ça devient un enjeu intellectuel et j'adore ça et c'est devenu vraiment ce qui m'intéresse vraiment.
Donc travailler sur les fossiles, c'est votre oxygène à vous,
oui,
si je comprends
exactement,
bien.
Exactement, exactement.
Dites-nous quand même, Daniel Pauli, en quoi l'océan, c'est l'organe vital de notre planète?
Alors, c'est l'organe vital de notre planète parce que la capacité thermique, la capacité d'absorption de chaleur et de dioxyde de carbone est immense comparée à l'atmosphère. Et donc, si on n'avait pas d'océan, ça serait déjà la désertification du monde. La Terre deviendrait absolument invivable. Nous serions déjà tous morts s'il n'y avait pas d'océan. Mais nous sommes déjà en train de transformer les océans et leur capacité d'absorber du dioxyde de carbone, parce qu'il en a déjà absorbé beaucoup. Et sa capacité d'absorber de la température, de la chaleur, évidemment, c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il en a déjà absorbé beaucoup. Et donc, si on continue comme ça, on va avoir des sérieux ennuis, parce que si le Groenland fond, les glaciers du Groenland, et surtout ceux de l'Antarctique, une couche autour du Groenland, une couche d'eau douce, parce que l'eau qui fond des glaciers est douce, et empêchera la descente d'eau très froide dans le Nord-Atlantique. Donc, ça va interrompre la circulation des océans et leur aération. Donc, on va avoir, dans quelques décennies, on peut très bien avoir une situation où on interrompt la circulation globale des océans qui maintient l'oxygène et la température des océans. Et ça, c'est incroyable. C'est la destruction du système global qui maintient les océans comme ils sont.
Il y a la question de l'eau. On parle d'ailleurs puisque vous évoquiez la température de l'eau, on parle de plus en plus de canicule marine.
Oui.
On parle d'acidification de l'océan. Et ça a des effets, vous nous le montriez déjà tout à l'heure, mais ça a des effets sur la vie dans l'océan.
C'est-à-dire oui. C'est ça. Alors, les canicules marines, par exemple, on va les associer aux canicules terrestres. Et une canicule terrestre, pour les mammifères que nous sommes, on va transpirer beaucoup. Il y a des vieux qui auront de la peine à s'adapter, qui vont mourir. Peut-être qu'il y a des nouveau-nés qui vont mourir. Mais en fait, une canicule, ça ne tue pas beaucoup de gens sur Terre. Par contre, une canicule marine, ça tue les animaux. Pourquoi? Parce que une canicule marine, ça ne correspond pas à la chaleur, ça correspond à la fumée. C'est comme un feu de forêt. Et un feu de forêt, il ne tue pas les gens à cause de la température.
Ça les asphyxie.
C'est des asphyxies. Or, les poissons, qui sont exposés à des températures élevées, ils s'asphyxient parce qu'ils n'ont pas l'oxygène qui leur permet de vivre. Donc, il faut associer une canicule marine ou une canicule aquatique, parce qu'il y en a aussi en eau douce, à un feu de forêt. Et un feu de forêt, c'est facile à imaginer, ça tue des tas d'animaux qui ne sont pas brûlés. Et on en a régulièrement en Méditerranée et dans d'autres coins.
Et pour les poissons, qu'est-ce qui est le plus ravageur pour les poissons et pour l'océan? Est-ce que vous diriez que c'est la pêche en eau profonde? Parce que les espèces qui vivent au fond de l'océan ont un rythme de reproduction plus lent. Est-ce que vous diriez que c'est les chaluts? Est-ce que vous diriez que c'est un problème de subvention? Est-ce que c'est les trois réunis? S'il y a d'autres choses?
C'est bien sûr la pêche et les subventions qui la rendent possible. Pourquoi? Parce que la pêche, c'est la seule activité humaine qui est faite pour enlever des poissons de la mer, pour tuer des poissons. Les autres activités, les canicules, la pollution, tout ça, c'est fait pour se débarrasser de trucs dont on n'a pas besoin, donc on jette du plastique dans l'eau et tout. Et c'est pas fait pour tuer les poissons. Or, par contre, la pêche, c'est fait pour tuer les poissons. Donc, et ensuite, les chaluts, c'est fait pour détruire les fonds marins. Ça peut pas faire autrement.
Ça racle tout au fond.
Ça racle le tout au fond. Donc, ça continue d'être la pêche le grand problème. De plus, les abondances de poissons ont réduit leur diversité génétique. Et si la diversité génétique est réduite, il n'y a pas d'effet darwinien de sélection par rapport au défi de la température. Alors, j'explique. Vous avez, dans une population de poissons, vous en aurez qui, par hasard, certains qui résistent bien à la température et certains qui ne résistent pas à la température. Donc, ce sont ceux qui ne résistent pas qui vont mourir les premiers. Et ensuite, ceux qui résistent bien, ça devient les ancêtres de la population qui va suivre. Mais s'il y a peu de poissons, il y a peu de variabilité. Et donc, il n'y aura pas ceux qui sont, par hasard, peu sensibles à la température. Donc, il faut avoir beaucoup de poissons dans l'eau pour avoir ceux qui pourraient résister mieux que les autres. Donc, on réduit la biomasse des poissons, on réduit l'abondance des poissons, on réduit leur capacité d'adaptation.
Mais est-ce que dans ces populations qui se réduisent, il n'y a pas aussi des populations ou des espèces qui apparaissent? Je me souviens, il y a quelques émissions, quand vous évoquiez Fishbase, vous avez dit, chaque année, il y a 500 nouvelles espèces qui apparaissent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a 500 nouvelles espèces que vous découvrez, ou est-ce que c'est 500 nouvelles espèces?
Non, c'est des espèces qui n'ont pas été décrites parce qu'elles étaient trop rares. Et ce ne sera pas des espèces abondantes. Ce dont vous parlez, c'est plutôt des espèces invasives. Par exemple, en Méditerranée, il y a des tas d'espèces qui viennent de la mer Rouge. Il y a par exemple des poissons, je sais pas comment on dit, des poissons ballons. Ils se gonflent comme ça. Eh bien, ils ont empoisonné, ils ont des becs qui bouffent tous les filets, qui détruisent les filets. Ils sont immangeables, donc ils sont empoisonnés. Et il est interdit de les débarquer parce qu'ils sont empoisonnés. Et donc, maintenant, ces poissons, dans l'est de la Méditerranée, en Turquie surtout, et en Grèce, ils forment 50% des prises. Et voilà des pêcheurs qui ont des filets qui ne durent que 5-6 fois moins qu'avant, parce qu'ils sont bouffés par ces poissons rongent les filets, et ils ne peuvent pas débarquer le poisson, c'est du poisson qu'on doit jeter, et c'est une espèce invasive qui est venue par le golfe de Suez. Ça, c'est le problème. Des espèces invasives. Bien sûr, les espèces invasives, elles nous viennent de l'océan Indien et Pacifique, qui en ont beaucoup, et elles entrent dans l'Atlantique par l'intermédiaire du golfe de Suez, la Méditerranée. Et donc, ça va bientôt arriver en France, sur les côtes françaises, vous allez voir les résultats.
Est-ce que c'est facile de réparer l'océan?
Non, ça prend du temps, mais les aires marines protégées, quand elles sont vraiment protégées, après,
c'est 0,8% de la surface des océans, c'est ça? C'est rien du tout.
C'est rien du tout.
Aujourd'hui, mais en tout cas.
Une aire marine protégée, vraiment, tout de suite, va s'améliorer. Au bout d'un an ou deux, vous verrez déjà une petite différence. Et dans les zones tropicales, ça va très vite. 5-6 ans, et vous avez presque la même chose qu'avant. Par contre, ici, ça dure une dizaine d'années. Mais une aire marine protégée, elle va rétablir la mer. Pourquoi? Parce que la mer, elle est connectée partout. C'est pas comme une forêt qui est peut-être isolé d'une autre forêt par des champs, et les graines ne peuvent pas passer d'un à l'autre. Dans la mer, les larves et les œufs, ils sont transportés d'un coin à l'autre. Donc, on peut repeupler facilement une aire qui était où il n'y avait rien, elle peut être repeuplée très rapidement.
Oui, on évoquait le thon rouge dans l'émission
oui,
précédente.
Oui, se remet très bien.
Qui est revenu entre 1995 et 2015 grâce justement à une bonne gestion des ressources ouais. par les autorités. Mais en même temps, on est ici dans les locaux de l'association Bloom. Et l'association Bloom alerte sur le fait qu'aujourd'hui, même les aires protégées ne sont plus protégées.
C'est-à-dire elles n'ont jamais été en France.
Les pêcheries vont oui. aussi dans les aires protégées.
Le fait est que une aire marine protégée en France n'est pas définie. Donc, le président déclare une zone énorme, 30% des eaux de la France métropolitaine, et il n'y a rien qui protège quoi que ce soit. Donc, on peut tout faire. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est protéger de quoi? Et bien sûr, je propose, elles sont protégées contre les Martiens. S'il y avait des Martiens qui essayaient de s'établir dans nos aires marines protégées, bien sûr que la marine interviendrait. Mais il n'y a pas de Martiens. Donc, par contre, il y a des chalutiers. Et les chalutiers, ils démolissent tout. Alors, je ne peux dire que si on essayait de cueillir des plantes dans le jardin, des pâquerettes dans le jardin des plantes, avec des bulldozers, c'est l'équivalent. Et j'ai pas exagéré, c'est l'équivalent du chalutage. Et les aires marines protégées en France sont chalutables. Et d'ailleurs, on le fait parce que j'ai des collègues qui ont publié un travail dans Science que des aires marines protégées, elles ont été déclarées dans des zones où il y a beaucoup de poissons, où il y a des poissons qui voudraient la peine de sauver. Donc, il y a plus de pression de pêche à l'intérieur des aires marines protégées. Et donc, Bloom a fait un film sur le chalutage dans les aires marines protégées. Et c'est une contradiction en termes.
C'est quoi les solutions pour vous?
Parce
qu'on les connaît.
C'est
en fait.
Protéger
les aires marines protégées. Mais pas seulement. Par rapport à la pêche, est-ce que une gestion locale, équitable, raisonnée de la pêche, par exemple, ce serait un bon point?
Ça serait un point merveilleux parce que si on cessait de subventionner la pêche industrielle, on s'en débarrasserait automatiquement. Parce que la pêche industrielle, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable parce que ces énormes bateaux, ils ne peuvent pas attraper assez de poissons pour payer leurs frais. Et donc, ils disparaîtraient tout simplement de partout s'ils n'avaient pas de subventions. Les subventions, c'est de l'argent que les contribuables payent pour avoir des écoles, des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait? On donne ça à des amateurs pour qu'ils construisent des longs bateaux pour aller pêcher là où il n'y a pas de poissons.
Donc arrêter les subventions aux pêcheries industrielles, créer des sanctuaires marins qu'on respecte, les aires marines protégées, interdire certaines zones de pêche
oui.
à des navires trop gros.
Mais bien sûr, il faut absolument séparer les petits et les gros bateaux. Et il faut, autour de chaque côte, une zone de 10, 20 kilomètres où les gros bateaux ne peuvent pas entrer. De sorte que les pêcheries artisanales peuvent opérer sans avoir cette compétition. Et avec ces trois trucs, aires marines protégées qu'on protège vraiment, pas de subvention à la pêche industrielle, une zone de séparation entre les deux formes de pêcherie, on aurait une amélioration automatique de l'océan qui nous pardonnerait tout ce qu'on lui a fait de mal.
Soutenir la pêche artisanale, c'est aussi soutenir quelques 500 millions de personnes dans le monde qui
Bien
vivent
sûr.
De cette
c'est
pêche.
Pour ça, c'est pour ça que dire que les gens qui luttent contre la pêche industrielle sont contre la pêche, c'est absolument faux, parce que on s'intéresse surtout au bien-être de ces millions de pêcheurs et leurs familles. Et les gens qu'ils alimentent, qui vivent le long de la côte, qu'ils alimentent en poisson, ce que la pêche industrielle ne fait pas. Parce qu'entre autres, la pêche industrielle, elle produit du poisson qui est consommé par des porcs, par des saumons, par des cultures animales. Et on fait même de l'engrais avec du poisson. Et donc, c'est fou du monde.
Alors, projetons-nous, Daniel Poli, dans le futur. Disons quand ces émissions, cette série à voix nue sera rediffusée. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan de cette année 2025, dont la France d'ailleurs a fait l'année de la mer, l'année 2025?
Que Macron, notre président, nous dise « J'ai considérer l'absurdité de du chalut dans les zones marines, dans des aires marines protégées, et il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de chalutage dans les aires marines protégées. Et ensuite, il dira, on va réduire les subventions à la pêche industrielle parce qu'ils ont assez de sous. S'il disait ça, ça serait fantastique, prix Nobel, on lui dit tout.
En fait, les solutions, on les connaît.
Il suffit, entre guillemets, de les appliquer. C'est pour ça que je travaille maintenant sur la paléontologie, sur les fossiles, parce que les solutions, on les connaît.
Est-ce que vous êtes optimiste?
Je trouve que c'est une mauvaise question. Parce que quand il y a un problème devant vous, la question, c'est pas si on est optimiste ou pessimiste. C'est la question, c'est ce qu'on va faire. Et je m'inspire là du fameux discours de Churchill en juin 1940. Les nazis étaient prêts à sauter sur l'Angleterre et la France venait de l'armistice, quoi. Et il a eu ce fameux discours, on va les combattre sur les plages, dans les collines, de l'air, de nos colonies, on va les combattre partout. Parce que la question, c'est pas, est-ce que vous croyez qu'on va gagner ou qu'on va perdre? C'était pas sa question. C'était la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'il a proposé de faire, c'est lutter contre, dans ce cas-là, l'Allemagne nazie. Et pour nous, c'est exactement le même problème. C'est pas, est-ce que je suis optimiste dans le sens que les humains vont survivre? Est-ce que je suis pessimiste dans le sens que on va bouillir tous les animaux qui vivent dans la mer? Je sais pas. Je sais pas vraiment où ça va finir. Mais ce qui est clair, c'est que tant que je serai en vie, je continuerai à dire ce qu'il faut dire. Voilà.
Je peux vous en poser une deuxième mauvaise? Parce que comme on a parlé de la pêche pendant ces 5 épisodes, je suis obligée de vous demander si vous continuez de manger du poisson.
C'est l'autre mauvaise question.
Voilà. Arrêter de manger du poisson, c'est pas une bonne question, mais expliquez-nous pourquoi.
Parce que je pense que choisir le poisson qu'on mange, en considérant les poissons qui sont protégés, c'est une bonne idée. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On doit le faire pour ne pas être trop hypocrite, mais ça suffit pas. Il y a trop de gens qui sont satisfaits par le fait.
C'est de la bonne conscience, quoi.
Ils ont une bonne conscience. Mais c'est pas avec l'estomac qu'on peut gérer la pêche. On peut la gérer avec le cerveau, avec le cœur, mais pas avec l'estomac.
Bon, je vais vous emmener quand même dans un pays que vous aimez, puisqu'on parlait d'oxygène et que vous en avez besoin d'un peu de souffle pour garder votre combativité, Daniel Poli. Un pays que vous aimez bien, c'est le pays où nous nous trouvons, la France. Vous êtes quand même réconcilié avec la France, même si ça n'avait pas très bien commencé pour vous.
Oui.
Et en particulier, en France, il y a une région que vous aimez.
La Creuse.
Vous vous retrouvez en famille, en Creuse. Ça vous fait du bien?
Oui. En fait, c'est ça que la réconciliation, c'était la Creuse. Je me souviens une fois, j'étais dans une rencontre tout à fait bête à l'UNESCO, je crois que c'était à l'UNESCO, et j'ai loué une voiture, je suis allé voir ma mère. On lui avait acheté une petite maison dans un village avec 16 personnes, 32 vaches, et elle était là à la retraite, elle avait un jardin, elle avait des poules. Mes frères et sœurs lui rendaient visite souvent, moi moins souvent parce que j'habitais au Canada. Et je suis allé là pour 3 jours, et ça a fait un bien incroyable, parce que la Creuse, il n'y a pas trop de gens. Il y a surtout des vaches, il y a surtout des beaux champs et tout. Et il y a des petites routes qui sont très bien maintenues par les cantonniers. Donc, on quitte la civilisation, on quitte la ville et toutes les bêtises qu'il y a. Et on va, voilà. Et puis à l'époque, il y avait une dame qui lui rendait visite tous les matins pour voir que tout se portait bien. Il y avait un espèce de camion qui a une épicerie sur roue. Et c'était un petit paradis. Bien sûr, les gens quittaient la Creuse, mais c'était un petit paradis. Je me suis réconcilié avec la France à cette époque, oui.
Je voudrais vous poser une question sur la reconnaissance, malgré tout, que vous avez obtenue, Daniel Poli, parce que si je remonte 20 ans en arrière, en 2003, vous devenez le directeur du Fisheries Center de Vancouver, vous intégrez l'Académie des sciences au Canada, le magazine Scientific American vous classe parmi les 50 scientifiques les plus influents, et puis ensuite il y a eu, je ne sais pas, une quarantaine de prix de distinction, peut-être l'un des plus importants, c'est en 2005, le prix Cosmos de l'écologie qui est décerné chaque année. Non ?
Tyler, the Tyler Prize, c'est beaucoup plus important.
C'est plus important que le prix Cosmos.
Oui.
Et il récompense quoi le prix Tyler ?
C'est eux qui prétendent être le prix Nobel de l'environnement, pas le prix Cosmos.
On dit souvent que c'est le prix Cosmos, on se trompe alors.
C'est pas ça du tout. Le prix Cosmos, c'est une erreur qui a été répandue par un journaliste du Monde, et puis en France, non.
Oui, c'est le bruit qui court. Mais c'est aussi parce que le prix Cosmos, il a récompensé Richard Dawkins, Jared Diamond, Jane Goodall, Philippe Descola, et vous.
Ils n'essayent même pas. Ils ne disent même pas, c'est le prix Tyler. C'est le prix de l'environnement qui veut être le prix
le plus haut
correspondant. Oui.
Et que vous avez obtenu?
Avec mon collègue Rachid Soumala, un économiste des pêches, oui.
En quelle année?
Il y a deux ans.
Il y a deux ans, donc en 2023.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous êtes sensible à cette reconnaissance? Est-ce que ça vous fait souffler? Est-ce que ça vous fait plaisir?
Vous connaissez le syndrome de l'imposteur? J'ai toujours un peu ça. Parce que quand on commence à penser que des prix qu'on reçoit sont mérités, c'est malsain. En fait, un peu d'humilité, c'est tout à fait approprié. Parce qu'il y a des choses qui vous tombent dessus, on ne s'y attend pas du tout. Par exemple, ça.
Ça, c'est quoi ça?
C'est la Légion d'honneur. ça m'est tombé dessus. On ne sait pas. D'accord, c'est comme la pluie, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, quoi.
Quand même, Daniel Pauly.
Non, parce que quand on fait de la science, on a toujours des collègues qui ont fait plus que nous. Alors, c'est ça l'idée. C'est que on a toujours des Darwin ou des Einstein qui sont bien meilleurs. Donc, on n'arrive pas à se voir au sommet de... C'est comme, j'imagine que c'est comme la poursuite de l'argent. Il y a toujours des gens plus riches. Et donc, on est toujours insatisfait. Et donc, je suis satisfait. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment résoudre des problèmes. C'est pas les prix, bien sûr. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir dans Scientific American, qui démontre que les bonnes idées, elles sont souvent motivées par... un intérêt donc scientifique, elles sont jamais motivées par le fric. Jamais. Les récompenses externes, qui n'ont rien à faire avec ce qu'on fait, elles n'ont aucune influence positive sur la créativité. Et donc, j'essaie de ne pas y penser, et puis les choses me tombent dessus. Bon, c'est bon, mais j'espère de ne pas y penser du tout.
Et la question du leg, de la postérité?
Alors là, c'est autre chose. Là, c'est tous les scientifiques veulent en avoir, et vu... l'évolution des océans qu'on va faire bouillir, au pire, et l'évolution des océans qui peut-être vont mal se développer, le futur, le leg de scientifique, ça va pas être la pêche. Ça va être la relation avec l'oxygène que les animaux ont, qui respirent de l'eau. Parce que c'est un problème scientifique qui n'a pas été bien abordé. Et je travaille là-dessus, et ça m'intéresse beaucoup plus que les problèmes de la pêche, parce que, en fait, c'est plus un problème scientifique.
Donc vous avez changé, parce qu'en 2003, la revue Nature avait publié vos réponses à un questionnaire de Proust, et à la question « Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ?», vous aviez répondu « Comme de quelqu'un qui a montré que l'effet des pêcheries sur la vie marine est équivalent à l'impact d'une météorite de grande taille sur la Terre ».
Voilà.
Ça, quand même, plus... l'oxygène, la respiration des poissons?
Oui, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore redéveloppé cette thématique. Ce qui s'est passé, c'est en 2013, un collègue a utilisé cette théorie pour démontrer que les poissons deviendraient plus petits. Et la réponse de certains physiologistes a été tellement négative que, comment c'est clair? Mais non, pourquoi est-ce qu'ils écrivent ces bêtises? Alors que ça a remis en marche tout le système, et c'est maintenant pour ça que je travaille là-dessus, à cause de ce commentaire ridicule de certains collègues.
Merci Daniel Pauly.
Je vous en prie.
Pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Daniel Poli, réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargée de programme À Voix Nue, Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture.
Un polar brut entre meurtre, devoir et déchirure familiale. À Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police.
Commissaire Bilong.
Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition.
Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot.
Indomptable, un film de Thomas N'Gijol, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous écoutez France Culture.